Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. J'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités. Anne Lebozec, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Sandrine Tilly, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors je vous reçois l'une et l'autre, Sandrine Tilly, flûtiste, et Anne Lebozec, pianiste, à l'occasion de la parution d'un disque aussi beau que passionnant, avec une œuvre, un des grands chefs-d'œuvre de votre formation, mais aussi de la formation violon-piano, on va en parler, qui est la sonate pour flûte et piano, opus 94 de Prokofiev, avec trois œuvres qu'à ma grande honte, je ne connaissais pas, une sonate pour flûte et piano d'Edison Denisov. D'ailleurs, c'est drôle, il s'appelle Edison parce que son père, je crois, était un physicien.
Oui, et je crois qu'il était en fait tout à fait fasciné par l'épopée électricité.
Et puis, alors, deux œuvres de compositeurs dont je ne connaissais pas, là non plus, à ma grande honte, le nom, avec des œuvres magnifiques. Une sonate pour flûte et piano de Paul Juon. Alors, quand on voit le nom, on se dit comme il est russe, mais en fait, il était né en Suisse. Et puis, il a vécu, mort en Suisse.
Mais c'est quand, même. Compositeur russe.
Oui, il est d'ailleurs, d'origine suisse.
D'ailleurs,
pardon.
Apparemment, j'ai eu l'info ce matin, ça se dit Louan.
Ah ben.
Voilà, donc, oui.
Bon, alors que son petit-fils veuille m'excuser, puisque vous avez fait valoir qu'il avait un
Paris.
Petit-fils. Voilà. Et puis, Yuri Kornakov, alors lui, pur russe. Et puis, avec une musique aussi qui sonne très, très russe. Avec donc quatre chefs-d'œuvre très, très différents. Donc, l'idée, alors d'abord. Moi, je vous ai écouté présenter ce disque. Visiblement, il y a un bonheur pour vous de jouer et de jouer ensemble, qui remonte à une certaine période aussi. Je ne sais pas qui veut parler de ce bonheur de jouer ensemble.
Oh ben, si on pouvait en parler ensemble, ce serait pas mal, justement. Oui, non, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est des années d'amitié et de pratique musicale et de découverte de répertoire. On a pas mal sillonné aussi quand même un petit peu les routes des concerts, différents pays, différents voyages. Voilà, ça finit par créer aussi non seulement le lien immédiat de l'entente, de l'affection, de l'amitié et puis de l'entente musicale aussi, mais simplement un lien de vie. Au bout d'un moment, les quatuors à cordes connaissent très bien ça. Alors, l'épopée du duo flûte et piano est bien entendu moins extraordinairement rapprochée.
Vous êtes deux.
Jalouse
des conflits.
Jalouse d'elle-même que le quatuor à cordes, mais il y a quand même quelque chose qui est pérenne en tout cas.
Oui, Sandrine Tilly, si vous voulez répondre là-dessus aussi. Vous êtes connue au CNSM.
On s'est connue au CNSM quand on avait 17 ans, il y a très peu de temps. Et
je ne vous détrompe pas.
Et c'est vrai qu'on a tout de suite accroché l'une avec l'autre. On avait très envie l'une et l'autre de jouer avec quelqu'un d'autre. Et on a développé cette espèce de science du duo, puisque pour nous, le duo n'était pas une flûte accompagnée d'un piano. Je n'aime pas ce mot accompagnateur. Il y a une flûte et un piano qui forment un duo, parfois un seul et même instrument. Et c'est vrai, quand nous étions étudiantes au conservatoire, on passait énormément de temps à jouer l'une avec l'autre. C'était plusieurs soirées par semaine, comme l'aurait fait justement un quatuor à cordes. Et on a essayé de trouver la même essence de musique de chambre dans notre formation de duo que l'aurait fait un quatuor à cordes.
Alors, l'une et l'autre, vous avez des activités considérables. Alors, vous, Sandrine Tilly, vous êtes flûte solo de l'Orchestre du Capitole de Toulouse, entre autres.
Tout à fait, oui.
Et puis, vous enseignez aussi.
Aussi.
Et à Toulouse.
Oui, j'enseigne à l'Institut supérieur des arts de Toulouse, qui est l'établissement supérieur d'enseignement des beaux-arts et de la musique à Toulouse.
Et alors vous, Anne Lebozec, donc on vous connaît aussi comme enseignante, comme musicienne, comme pianiste. Vous travaillez énormément et vous êtes très connue pour travailler aussi beaucoup avec les chanteurs. Mm-hmm. Et puis vous avez une classe au CNSM, chant piano.
J'enseigne l'accompagnement vocal, qui est un terme très général qui permet de mettre beaucoup de choses dedans. Très spécifiquement, on s'oriente vers le répertoire du lead et de l'oratorio. Le lead dans plusieurs langues, bien entendu spécifiquement en français et en allemand, puisque ce sont les deux grands corpus. Mais évidemment aussi la mélodie anglaise. On a également une excellente classe de diction russe, donc on peut aborder justement la mélodie russe. Et bon, l'idée est de ne pas se limiter justement en termes de découverte. Les langues sont un facteur éventuellement limitant. En tout cas, il faut bien aborder ce répertoire d'une manière à bien comprendre toujours ce qui est dit. Mais le fait d'enseigner l'accompagnement met justement la question au cœur de la place du piano au sein de toutes ces musiques, et qu'est-ce qui est entendu ou sous-entendu ou peut-être mal entendu dans le terme d'accompagnement. Je rebondis là-dessus parce que Sandrine vient de l'évoquer. Pour moi, c'est vraiment la compagnie, en fait. C'est la compagnie mutuelle, et l'accompagnement est pour moi une expérience absolument mutuelle. Je crois qu'hier, après le concert qu'on a donné, Sandrine et moi, quelqu'un est venu nous parler de ce nouvel instrument qu'on avait inventé toutes les deux et qu'il faudrait lui donner un nom. Alors on a cherché Flupia ou Plafu, et j'ai trouvé ça très 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 joli comme idée, et voilà, je vous la livre parce que c'est tout neuf.
Mais il est vrai que souvent on va écouter des concerts de musique de chambre et puis on a l'impression que des grands talents sont réunis pour l'occasion, mais qu'au fond il n'y a pas un travail, un itinéraire commun. Et vous, on a l'impression, enfin, ça me faisait penser à ces grands duos que j'ai assistés. Enfin, je pense à Janos Starker, Georgie Sebok, à ces duos-là. Enfin,
c'est gentil à vous.
Mais à ces grands duos où justement on a l'impression que c'est deux âmes qui communient.
Oui, alors c'est assez mystérieux parce que, évidemment, en ce qui nous concerne, les années sont là aussi pour sceller tout ce travail qu'on a fait. Mais je pense que cette alchimie, elle existait dès le départ entre nous. Peut-être on aurait mis un micro il y a 25 ans, c'était certainement différent, mais peut-être qu'il y avait déjà une complicité immédiate et mutuelle, justement. Et c'est assez mystérieux parce que, de fait, en travaillant tout ce répertoire, en pratiquant aussi la musique de chambre et l'accompagnement néanmoins, on arrive à s'adapter immédiatement, à sentir ce que l'autre veut. Enfin, on arrive à une forme de télépathie et de sensorialité musicale partagée qui peut aller très très vite. Avec certains partenaires, on n'a pas besoin d'avoir travaillé très longtemps pour se trouver sur un plan très très subtil. Et avec d'autres, ben non, ça marche pas forcément, et peut-être le travail à ce moment-là aide, mais peut-être aussi pas forcément.
Et puis pour vous quand même, Sandrine, je pense que c'est aussi un complément. Enfin, c'est le flûte solo d'un des grands orchestres français, donc un tout autre répertoire. Là, vous vous retrouvez en musique de chambre, c'est quand même une nécessité, je pense. Aussi.
C'est absolument nécessaire, c'est totalement complémentaire. Et par exemple, dans le cas de notre disque de sonate russe, c'est apparu pour moi comme une évidence d'aborder ce répertoire après l'avoir abordé comme flûte solo dans un grand orchestre qui a joué énormément de musique russe les 15 dernières années, puisqu'on avait un chef russe, Tougan Sokiev, qui excelle dans toutes les symphonies de Shostakovich, de Prokofiev. Et c'est vrai que j'avais très envie d'aborder avec Anne et avec nos parcours qui s'étaient étoffés de nouvelles expériences ce répertoire.
Alors ce répertoire, on va parler justement de ce disque qui vient de paraître pour ce label d'une très grande curiosité qui est Maguelone, donc quatre œuvres russes. Alors vous ouvrez par un des grands piliers de ce répertoire flûte piano qui est la sonate de Prokofiev. Ça c'est un amour de toujours visiblement quand on lit le texte qui accompagne ce disque.
Oui, c'est un amour, c'est-à-dire que quand on s'est rencontrés au conservatoire, on s'est dit « tu veux pas faire du duo flûte et piano si on fait la sonate de Prokofiev ?» Évidemment. Donc, on a joué la sonate de Prokofiev. Je pense que c'était extrêmement frais comme interprétation, mais c'en était une quand même. Et après, on a étoffé notre répertoire. On a énormément travaillé sur la musique française. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, enfin, il y a plusieurs années, on a repris la sonate de Prokofiev pour un concert. Et Anne m'a dit « Ah bah Sandrine, ça se voit que tu travailles avec un chef russe !» Et cette sonate de Prokofiev, c'est vrai que j'avais complètement changé ma manière de la jouer. Anne a réagi avec aussi le parcours qu'elle avait fait, et on a eu vraiment envie de l'enregistrer.
Vous, Anne, c'est une sonate que vous jouez avec des violonistes aussi, cette sonate ?
Eh bien, je dois dire que non.
Mais c'est un choix ou c'est les circonstances ?
Non, alors peut-être, dans mon parcours avec les violonistes, j'ai relativement peu abordé le répertoire russe. Et je crois que ce ne serait pas de toute façon une priorité parce que aussi, très, très égoïstement, j'aime beaucoup moi-même découvrir du répertoire. Donc si c'est pour rejouer toujours la même sonate, alors que je suis très contente de la jouer avec flûte et que c'est d'ailleurs la formation originale pour laquelle elle a été écrite, j'avoue que je préférerais commencer par aller voir ailleurs. Il y a d'autres sonates de Prokofiev écrites originellement pour le violon et c'est intéressant de les aborder aussi. Ceci dit, je comprends très bien que les violonistes aient eu envie de s'approprier cette œuvre.
Oui, parce qu'au risque de vous choquer, moi j'aime autant autant l'écouter à la flûte qu'au violon. C'est un bonheur différent, très différent. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment une autre œuvre.
Ah oui, oui, mais d'ailleurs, je pense qu'au niveau pianistique, ça se jouerait pas pareil. C'est ça qui est absolument passionnant, c'est qu'on touche là à des sensibilités justement de type de phrasé, simplement de nécessité instrumentale aussi qui sont pas les mêmes. Il y a évidemment quelques transformations de la partition adaptées à l'instrument, mais à part ça, pianistiquement parlant, je ne vais pas du tout jouer pareil avec une flûte ou avec un violon, alors que ce sont les mêmes tessitures.
Oui, mais ne serait-ce que le deuxième mouvement qui est peut-être qui exprime un côté plus motorique peut-être au violon et qui a plus de douceur dès lors qu'on entend la flûte. Enfin, c'était frappant hier en vous entendant jouer. C'est pas le même mouvement. Enfin,
non, ça raconte complètement autre chose. Et c'est là que d'ailleurs se situe l'écoute différente en tant que partenaire. C'est-à-dire, c'est pas simplement le s'adapter à un type de son, s'adapter à un type de phrasé. C'est vraiment vivre une expérience de type différent. Chaque instrument véhicule avec lui quelque chose de totalement identitaire.
Mais vous, Sandrine Tilly, vous disiez justement que le fait de jouer dans l'orchestre avec un chef russe avait changé votre manière d'interpréter, mais il y a quand même une école. Vous sentez issu d'une école française de flûte, ou alors vous
Oui, tout à fait. Moi, je suis un pur produit de l'école française de flûte, avec toute la technique sonore qu'elle représente, la technique d'articulation, une forme d'exigence de la sonorité que j'ai appris avec mes professeurs, que j'ai développée. Donc, je suis en effet une flûtiste française de l'école française de flûte. Ça, je pense, ça fait pas de doute. Après, ce que j'ai pu développer, c'est déjà la connaissance de la musique russe, découvrir sa profondeur, son histoire aussi, parce qu'on ne peut pas jouer par exemple les symphonies de Shostakovich je pense quasiment toutes jouées sous la direction de Tougan Sokiev. À chaque fois, je me suis intéressée à l'histoire de chaque symphonie, puis à l'histoire du peuple et politique à un moment où elles ont été écrites. On ne peut plus jouer les choses de la même manière. Et bien qu'étant de l'école française de flûte, forcément, on joue un petit peu différemment. Et je dirais que le travail que j'ai fait dans l'orchestre avec Tougan Sokiev, c'est complémentaire, c'est-à-dire que ça va ajouter une force de cette musique russe, aussi même techniquement, certaines articulations, certaines manières de jouer des passages détachés qu'on ne ferait pas dans la musique française. J'ai pas enlevé mon côté français, je pense que j'ai ajouté quelque chose.
Alors, vous l'avez ajouté pour notre plus grand plaisir, puisque ce disque de sonate russe, donc il y a cette fameuse sonate pour flûte de Prokofiev, et puis alors, il y a cette sonate de Denisov, vous disiez, alors ça qu'au début, Anne, vous l'aviez proposé, et puis c'est pas une musique qui vous séduisait au départ.
Non.
Du temps, c'est quoi, c'est du temps à comprendre le sens
Je ne sais pas. Enfin, quand on a commencé, donc dans les années nos 20 ans, je dirais, on jouait Prokofiev, on jouait Poulenc, on jouait les grandes sonates. Moi, je pense que j'étais quelque part peut-être une flûtiste un peu basique et je voulais jouer les tubes. Et Denisov, comme Paul Jean, n'en faisait pas partie. Et je pense que c'est une pièce qui est extrêmement dense, c'est une pièce qui a beaucoup de poésie aussi, mais qui n'est pas virtuose au sens rapidité du terme.
Il y a une partie quand même
spectaculaire. Spectaculaire, mais je ne sais pas. Moi, j'avais sans doute envie de jouer beaucoup de notes très vite au moment où elle me l'a proposé. Et je suis passée complètement à côté de la profondeur harmonique et de la densité sonore que proposait cette sonate. Elle m'a proposé plusieurs fois, Anne, de la jouer. J'ai dit plusieurs fois non. Puis après, c'est vrai que quand on a à nouveau parler d'élaborer un programme russe, elle est revenue cette sonate et j'ai compris je l'ai comprise et j'ai eu envie de la jouer et je pense que on la défend avec beaucoup de maturité par conséquent et je l'ai jouée aussi en ayant abordé justement ce répertoire que Denisov avait écouté, toutes les symphonies de Shostakovich, les poèmes symphoniques de Prokofiev, je les ai joués et je pense que ça transparaît dans l'interprétation qu'on en a faite.
Vous, Anne, c'est une œuvre que justement vous aimiez, vous connaissiez et vous vouliez jouer.
Alors moi j'ai un rapport aux partitions qui est peut-être un rapport un peu pianistique justement parce que une partition elle va m'intéresser avant que je la joue parce que je la regarde. y a des partitions qui me font de l'œil. Ah, oui. C'est pour ça que j'aime bien aller dans les magasins de musique et sans jouer, je regarde. Et il y a vraiment des partitions qui m'appellent comme ça, rien que parce qu'elles ont l'air d'eux. La partition de Denisov avait l'air d'être une espèce de gouffre comme ça dans lequel on pouvait plonger et passer du temps et c'était peut-être une forme de vision ou d'hallucination, j'en sais rien, mais je nous ai vraiment vu la jouer. Alors bon, et je crois vraiment pouvoir dire et notamment par l'instrument flûte que Sandrine en est une interprète assez extraordinaire et qu'il fallait peut-être ce temps-là, il fallait certainement pas se forcer. Ça pose aussi une question qui est un petit peu peut-être hors sujet mais qui mérite d'être évoquée, qui est que les pianistes en fait évidemment on commence souvent très tôt notre instrument, mais on est très 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 vite amené à jouer alors que ce serait pas forcément le moment en termes de maturité ou d'expérience de vie, des œuvres majeures, des œuvres qui réclament vraiment d'avoir un parcours en réalité et d'avoir vécu. Ça pose cette question-là, je la trouve intéressante, c'est-à-dire que faut-il vraiment se mettre aux choses trop tôt ou bien faut-il attendre que ce soit le bon moment ? Je pense qu'il y a personne n'a ni tort ni raison, mais là c'était le bon moment.
Oui, mais alors peut-être que je vais m'égarer, mais on a l'impression que certaines œuvres, justement, je ne sais pas si peut-être que vous pensez inconsciemment aux sonates de Beethoven ou de Schubert.
Bien sûr.
Ou, avec une maturité. Mais parfois, c'est comme des amitiés. Quand on revoit les gens 10 ans après, il y a quelque chose qui s'est approfondi, mais ce n'est pas pour autant qu'on les aimait moins les aimait mal.
Mais il y a des choses étonnantes qui sont, par exemple, si je parle de ma propre expérience, c'est-à-dire que enfant, adolescente, j'ai toujours été énormément plus attirée, par exemple, par le Beethoven de la fin, par le Forêt de la fin, que par leurs œuvres éventuellement plus immédiatement accessibles, selon les canons de ce qu'il est convenable de penser, si vous voulez. Et je me suis finalement intéressée à ces compositeurs-là par leur aspect presque de finitude. C'est vraiment ça qui me donnait leur clé, parce que je me sentais plus loin, justement, par exemple le premier Beethoven qui peut avoir quand même un côté encore très très marqué par le classicisme alors qu'il s'en affranchit quand même beaucoup, mais quand même ces codes là sont encore très présents et peut-être que ce qui moi m'a toujours attiré finalement c'est cette prise de liberté avec le matériau, c'est ce que j'identifie maintenant comme ça parce que c'est ce que fait Forêt justement, c'est ce que fait Beethoven et c'est ce que je pense avoir identifié justement simplement en la regardant cette partition avec ce vide du début de la sonate de Denisov, ce vide plein de choses tragiques, ces trilles qui désespérément essayent de trouver leur conclusion et la trouvent pas, et puis cette décharge électrique là de la, on parlait de Denisov justement, de la deuxième partie, cette décharge effroyable, c'est des choses qui m'ont alerté immédiatement.
Bon, vous parlez de Forêt, je me permets de citer au passage votre merveilleux disque avec Marc Moyon.
Ah, merci.
Pour lequel je n'ai pas eu le plaisir de vous inviter, mais ce n'est que, j'espère, que partie remise. Comment ça se passe justement, parce que vous disiez, Sandrine, que cette œuvre, vous aviez peut-être pas un a priori, mais vous avez eu du temps. Il vous arrive de jouer des œuvres, justement, que ce soit à l'orchestre ou ailleurs, pour lesquelles vous n'avez pas une affection particulière et comment ça se passe quand on va vers un répertoire où comment on joue une œuvre pour laquelle on n'éprouve pas un véritable amour ou passion?
Je pense qu'en tant qu'interprète, toutes les œuvres sont quand même intéressantes. On s'y plonge et on y trouve une substance qui fait qu'on va les jouer le mieux possible et qu'on va les aimer au moment où on va les jouer. C'est comme les gens, en fait. Tout le monde a... Beaucoup de gens ont de la valeur. Après, on n'est pas forcément... On n'a pas forcément une amitié profonde avec tout le monde. Donc c'est un peu pareil avec les œuvres. Mais de toute façon, on défendra et on interprétera une œuvre qui ne nous va pas forcément droit au cœur. Et on peut être surpris parce que finalement, on peut, par des chemins de traverse, trouver une nouvelle voie qui va nous faire aimer une œuvre. Alors c'est vrai qu'à l'orchestre, je ne choisis pas ce que je vais jouer. Et parfois, je dois jouer des partitions que je n'aurais pas choisies. Mais c'est toujours des belles rencontres, quand même.
Et alors, juste une parenthèse, vos répertoires préférés à l'orchestre, les œuvres que vous adorez
Ça, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre, parce que c'est tellement vaste, et je dirais que je vais me passionner pour une œuvre que je vais jouer, puis après, l'année d'après, ça va être une autre. Bon, j'adore les symphonies de Brahms, j'aime beaucoup les symphonies de Shostakovich.
La quatrième, notamment, pour la flûte,
oui.
Et vous a bien gâté.
Je dirais que les œuvres orchestrales qui me passionnent le plus ne sont pas forcément celles où il y a les plus grands solos de flûte. J'aime beaucoup les solos de flûte, j'adore jouer les solos de flûte, mais quand même, c'est pas le moteur de mon amour pour certaines pièces.
Alors on va revenir à ce disque, on va aborder un compositeur. Alors lui, je ne le connaissais pas du tout, mais je crois que je ne suis pas le seul. C'est magnifique comme sonate. Vous disiez en le présentant un peu le Brahms russe, Paul Juon. C'est vous, Anne, qui avez trouvé cette œuvre
Bah oui, c'était encore une trouvaille d'un magasin de musique avec une partition qui m'a cligné de l'œil, oui.
Mais c'est un compositeur que vous connaissiez?
Pas du tout. Non, je pense
que vous cherchiez du répertoire pour flûte et piano.
Oui, j'ai trouvé. D'abord, c'est bête à dire, mais la couverture était très jolie. Donc, c'est comme une pochette de disque, soit dit en passant. Voilà, il faut quand même que ça soit aussi en harmonie avec le contenu. Je l'ai ouverte et je me suis dit tiens, c'est joli. Et puis j'ai vu que dans le troisième mouvement, il y avait aussi un dialogue intéressant dans la gestion aussi des grands solos, parce que c'est une partition où chaque instrument est aussi pas mal traité de manière concertante en soliste lui-même. Et c'est assez rare en fait que le piano prenne autant de place. Et le surnom Brahms russe effectivement donné à Paul Juon, puisqu'il a enseigné la composition à Berlin et a été très très marqué finalement par cette esthétique également, et certainement par la langue. Cette dénomination de lui trouve vraiment du sens en fait quand on lit cette partition. Il y a un enjeu très romantique tardif et très germanique finalement dans la manière de gérer notamment la partie de piano dans le troisième mouvement.
Mais alors dans le premier mouvement, il y a un passage martial depuis que je vous ai entendu le jouer, vers la fin du premier mouvement, qui m'évoque un peu du Berg ou je sais pas.
Moi je pensais un petit peu à Hindemith quand on le joue. Ouais.
Je me dis mais ça évoque vraiment d'autres compositeurs du XXe siècle, alors que le reste c'est plus... dans la lignée,
oui, le premier mouvement est peut-être un peu plus une forme de fantaisie de un peu psychanalytique, où on passe d'un mode de langage à un autre. C'est un petit peu un patchwork. Les deux autres mouvements sont plus structurés autour d'idées plus communes, effectivement.
Alors, je me retourne vers vous, Sandrine, parce que on a oublié d'évoquer cette question, parce que Denisov, vous avez eu trois maîtres qui ont travaillé avec Denisov. Notamment Aurèle Nicolet.
Notamment Aurèle Nicolet, oui.
Oui, et vous en parlez à l'époque, ou alors vous avez étudié...
Je ne sais plus. je pense qu'Aurèle Nicolet m'en avait parlé, je pense que Pierre Évartaud aussi, mais je n'avais pas abordé cette musique avec eux.
Et alors quand on parle de ce répertoire, de ces œuvres, puisque sonate russe, en fait on se demande ce que ces quatre compositeurs ont en commun, si ce n'est le fait qu'ils sont russes et que les sonates sont magnifiques, les œuvres sont magnifiques, mais qu'est-ce que ces œuvres ont en commun au niveau écriture? Elles ont quelque chose ou...
Alors elles ont en commun d'abord le fait d'être extraordinairement contrastées. Enfin, je veux dire, la rupture est aussi une forme de... Enfin, c'est ce qui nous intéresse en l'occurrence dans ce programme, c'est vraiment de montrer que ces visages très... quand même sculptés à la serpe, hein, c'est quand même des identités très très fortes, montrent un chemin vers peut-être une identité qui est beaucoup plus vaste que ce que justement nous en tant que Français on peut considérer comme une identité peut-être de nation, même si on peut considérer dans la même période qu'un Fauré, un Debussy, un Ravel n'ont pas du tout écrit la même musique, il y a quand même quelque chose de très commun. Et là, effectivement, on peut trouver des influences très contradictoires hein, dans ce disque. Et je pense que c'est le centre d'intérêt de la chose, c'est de s'être plongé aussi dans des formes de discours, des formes d'expérimentation musicale qui sont tellement diverses et qui sont, comme le disait Sandrine tout à l'heure, aussi tellement intimement liées aux conditions, aux contextes socio-historiques dans lesquels elles ont été composées, de voir comme un compositeur est marqué par son environnement, marqué par son destin, marqué par la pression qui s'exerce sur lui ou la liberté qu'il a, le bonheur de pouvoir vivre. Voilà, que tout ça forge des formes simplement de discours et de manière d'envisager l'expression musicale, la forme de la liberté d'expression aussi. Tout ça est au cœur du disque et certainement... Ça mérite d'être considéré comme le lion hein, des choses.
Alors Paul Juon, donc il est né en Russie, puis il était un grand germanophone, donc il est allé en Allemagne, il est allé enseigner, puis il a été chassé par le nazisme en 1934, il est allé la fin de sa vie en Suisse.
Oui,
Et donc c'est aussi, c'est un itinéraire, cette influence germanique.
Alors les liens entre la Russie et l'Allemagne ont en fait préexisté bien sûr et ont toujours été forts. Et notamment, on sait bien dans le domaine justement culturel, dans le domaine des arts, l'Allemagne était quand même un phare absolu. Donc pour devenir professeur de composition à Berlin, c'était quand même une forme de consécration. Et ça a été quand même son destin. Alors on peut se demander quelle a été, comment dire, la capacité est tellement rapide d'oubli de l'œuvre, d'ailleurs très importante, de ce compositeur, Paul Jon.
Il y a des œuvres, excusez-moi de vous interrompre, pour piano seul que vous
Alors,
avez jouées.
Il y a des œuvres pour piano seul, il y a beaucoup de musique de chambre, il y a des symphonies. Après, je n'ai pas non plus eu l'occasion de beaucoup regarder l'ensemble de son catalogue, mais c'est vraiment à venir parce que je pense que c'est un compositeur vraiment à refaire découvrir et puis qui apporte vraiment une forme de. Je pense de pièces un petit peu manquantes aussi dans l'échiquier musical de l'époque, puisque on sait bien que de toute façon, avec l'avènement d'Hitler, des musiques entières et des formes d'expression artistique entières ont été juste rayées de la carte et effacées. Donc, on les redécouvre aussi avec un petit travail historique simplement.
Alors, on est frappé aussi. Alors, Sandrine Tilly, quand on écoute ses œuvres, elles sont quand même très valorisantes elles sont très, comment dire, il y a des œuvres dont on dit qu'elles sont violonistiques, et là elles sont, comment on dit,
flûtistiques.
Flûtistiques.
Elles sont, c'est vrai, valorisantes.
Enfin, valorisantes, je me suis mal exprimée.
Mais
je voulais dire, c'est vraiment, elles font.
Et très, très bien. Les quatre pièces sont très, très bien écrites pour la flûte, de manière différente. Mais à aucun moment la flûte est vraiment accompagnée. C'est vraiment le duo, je trouve, qui est mis à l'honneur, puisqu'elles sont aussi très très bien écrites pour le piano.
Prokofiev, déjà, c'était un grand pianiste.
Prokofiev, c'était un immense pianiste. Mais chacune des œuvres a une très belle écriture pour le piano et une très belle écriture pour la flûte. C'est vrai que dans le cas de la flûte, beaucoup de visages de la flûte sont découverts dans le disque. On a des choses extrêmement virtuoses, une pièce par exemple de Denisov qui travaille énormément sur la texture du son, sur le phrasé, les très très longues phrases. On a chez Paul Jon, on a une flûte un peu plus fraîche, je dirais, un petit peu plus sautillante, même si elle demande de densité. Donc on voit beaucoup de visages de la flûte dans ce disque.
Mais alors, question idiote, tant pis. Vous avez un instrument avec un répertoire gigantesque au XVIIIe siècle, gigantesque au XXe siècle et au XXIe aussi. Il y a des tas de créations avec des œuvres pour flûte. Et au XIXe, on cherche les Schumann et Brahms. Enfin, vous parliez de Brahms, mais c'est à l'orchestre.
On les cherche, on sait qu'il n'y en a pas.
Mais comment ça se fait, cette éclipse, alors que c'était un instrument qui a été tellement valorisé avant et après
Moi, je l'explique par le fait que le 19e siècle a été le moment où la facture de l'instrument a changé sans encore trouver vraiment son aboutissement. C'est-à-dire qu'au milieu du 19e siècle, on est passé de la flûte baroque à laquelle on avait rajouté des clés à une flûte moderne. Mais les compositeurs ne l'ont pas utilisée tout de suite. L'instrument manquait d'ampleur à un moment où l'orchestre prenait, lui, de l'ampleur. Les compositeurs romantiques ne se sont pas intéressés, peut-être pour ces raisons-là. Ils ont plus porté leur dévolu sur la clarinette, qui lui était un instrument nouveau et qui avait plus de volume, une expressivité différente. On disait que la flûte, c'était très faux. Ça a bien changé, enfin, j'espère.
A bien changé.
En effet, on a un grand un trou au niveau du 19e siècle. Et je reviens sur le programme de notre 10, parce que si la sonate de Jon date de 1900, dans les années 20, elle correspond finalement à une musique qu'on n'a pas eue à la fin du 19e siècle. On n'a pas de grande sonate romantique ou post-romantique, enfin on en a peu, de cette ampleur. Et c'est pour ça que ça a un double intérêt pour nous par rapport au répertoire russe que l'on a envie d'aborder, mais aussi tout simplement par rapport au répertoire du duo flûte et piano.
Oui, parce qu'il y a une chose sur laquelle je n'ai pas assez insisté, c'est que ce disque, hormis la sonate de Prokofiev, ce chef-d'œuvre bien connu, non seulement ce sont des grandes découvertes, mais c'est un grand bonheur. Enfin, parce qu'il pourrait y avoir des découvertes où on se dit, bon, c'est intéressant, on est très heureux de découvrir tel ou tel compositeur, Paul Juon et Rui Kornakov, et cette sonate de Denisov. Mais c'est des œuvres qui sont vraiment magnifiques. Enfin, il n'y a que des chefs-d'œuvre dans ce disque.
Oui, oui, c'est sans doute.
Non, mais je ne veux pas froisser.
Il y a peut-être une chose sur laquelle j'aimerais juste porter l'attention, c'est le titre qui peut sembler soit plat, soit minimatique, mais qui a vraiment du sens. Le disque s'intitule Sonate, au pluriel. Et en ce qui concerne le répertoire pour flûte et piano, en réalité, ça représente une forme d'exception. Puisque précisément, la grande période de la sonate romantique est inexistante ou très très peu existante dans le répertoire pour flûte et piano. Et là, c'est vraiment l'avènement du piano roi, la forme sonate qui prend vraiment toute son ampleur et toute sa variabilité aussi dans le domaine de la musique de chambre, par exemple avec cordes. Et grâce justement à ces découvertes de répertoire, eh bien, la flûte retrouve l'univers de la sonate, c'est-à-dire l'univers d'une pièce de grande ampleur, en plusieurs mouvements, charpentés, structurés, autour de thématiques éventuellement qui peuvent aller d'un mouvement à l'autre. Enfin, voilà, la dimension finalement symphonique pour la musique de chambre qui s'exprime au travers de la sonate est présente, alors que beaucoup de disques finalement pour flûte et piano, de manière nécessaire, parce que le répertoire finalement y conduit, présente plutôt, alors autour d'une sonate, il va y avoir des petites pièces, des pièces de caractère, des pièces de virtuosité. Voilà. Il va y avoir une espèce de fréquentation un petit peu globale de toutes les formes musicales auxquelles la flûte a pu faire penser les compositeurs. Mais là, ces sonates, c'est finalement pas du tout si fréquent que ça.
Anne Lebozek, j'ai eu le plaisir plusieurs reprises de vous interviewer pour votre travail avec les chanteurs. Là, on se retrouve sur un travail avec une flûtiste. Vous aimez ce rapport au souffle, vous aimez jouer avec des gens qui travaillent sur le souffle.
Oui, c'est, je crois que c'est au-delà du fait d'aimer. C'est certainement aussi une chose dont je n'ai pas encore fait le tour jusqu'à mon dernier souffle, j'espère. Certainement, par l'intermédiaire de Sandrine, du travail avec Sandrine, c'est le premier travail au long cours que j'ai fait avec un instrument dont le souffle est vraiment à l'origine. Je ne savais pas encore que j'allais m'embarquer dans tant d'histoires avec le chant, avec les chanteurs, dont évidemment là, le souffle est encore plus premier puisqu'il se passe à l'intérieur même du corps. C'est une donnée, je trouve, qui peut manquer éventuellement, non pas parce qu'on n'y fait pas forcément attention quand on est un jeune pianiste, mais simplement parce que on peut jouer du piano en apnée. C'est pas bien, on finit par en souffrir, et puis je pense vraiment que le pianisme, le jeu pianistique aussi, et la vision musicale en souffrent absolument, mais c'est techniquement possible, alors que demander à un flûtiste ou un chanteur de jouer sans souffle, c'est pas du tout possible. Donc là, en tant que pianiste, on est confronté à une obligation, à vraiment une sollicitation extrême et urgente. Si on joue avec ces instruments-là, on est obligé d'utiliser son souffle. Et donc de se mettre en résonance, de se mettre en écho, en sympathie corporelle, tout ce que vous voulez. Parce que d'abord, il faut ressentir le souffle de l'autre. Et puis après, il faut aussi l'incorporer à son propre jeu. Et puis au final, tout ça est une passerelle formidable vers son propre souffle, dans son propre jeu, qui devient aussi un souffle pour l'autre. Et le fameux cantabile et le fameux chantant que l'on cherche au piano, je pense, peut trouver sa racine à cet endroit-là.
Et vous, Sandrine, les instruments avec lesquels vous préférez jouer, bon, on voit l'union de votre duo et à quel point vous aimez jouer ensemble, mais il y a d'autres instruments avec lesquels vous pouvez retrouver le bonheur comme ça. Bon, chez Debussy.
Oui, j'avoue que... Pour moi, le plus bel instrument, c'est l'orchestre. Hein. J'ai toujours eu une passion pour l'orchestre symphonique. Donc, c'est là que je puise énormément d'inspiration. J'aime bien jouer avec les instruments à cordes, mais on n'a pas un répertoire. On a des très beaux quatuors de Mozart, mais on n'a pas un grand répertoire. Je joue assez peu avec les autres instruments avant. Finalement, je les fréquente plus à l'orchestre. Et bon, le piano, le fait de jouer avec piano, j'adore cet instrument. J'ai apprécié aussi, vous posiez la question à Anne par rapport à son rapport avec un instrument avant. Moi, il y a des choses que j'ai touchées de près, finalement, en travaillant avec Anne et elle, son rapport avec les chanteurs. C'est-à-dire que, comme un pianiste peut jouer en apnée, même s'il ne faut pas le faire, un flûtiste peut jouer sans sans mots. Et avec Anne, j'ai appris à comprendre qu'une phrase musicale peut avoir des mots, et qui dit mots dit voyelles et dit consonnes. Et le fait de phraser avec des consonnes, c'est quelque chose que j'ai observé chez les chanteurs, dont j'ai parlé avec Anne, et qui a enrichi mon jeu, je pense. J'aime beaucoup ce concept de jouer comme les chanteurs, parce qu'eux ont des mots.
Moi, je pourrais vous interroger des heures sur ces sujets magnifiques, mais on va terminer cet entretien avec la dernière œuvre de ce disque, qui est aussi très très différente, une autre sonate, la quatrième, sonate pour flûte et piano opus 23 de Youri Kornakov. Non plus, on ne peut pas dire qu'il embarrasse les salles de concert, ni les bacs des disques.
Ni les encyclopédies musicales.
Et c'est une sonate absolument merveilleuse.
Oui, c'est merveilleux, oui.
Et vous en avez joué en concert les deux derniers mouvements, et c'est
et on avait enregistré le premier.
Oui, vous avez, bien sûr, l'intégrale est enregistrée.
Pardon,
sur le
c'était
disque,
une blague.
Paru encore une fois pour le label Maglone. Ça aussi, c'est une œuvre incroyable.
Oui, c'est vraiment le quatrième visage. Alors là, l'influence, par exemple, de Shostakovich, et que Sandrine a énormément fréquenté à l'orchestre, est absolument manifeste. Et là, il y avait quelque chose dans notre travail qui, pour moi, était entre guillemets très, très, très pratique, parce que finalement, moi, pour le coup, j'ai pas tellement joué de Shostakovich. Mais c'est que là, il suffisait d'emboîter le pas à Sandrine, clairement. Il y avait une connaissance dans la pratique de ce répertoire, et puis certainement aussi la vision simplement du caractère oppressif de cette musique qui était très incarnée déjà. Donc il s'agissait vraiment de se mettre à l'unisson, au diapason de ça, et de suivre.
Et comment elle est écrite pour la flûte, cette sonate ? Vous êtes entré dedans avec facilité, ou alors vraiment c'est une écriture complexe ?
Disons que moi j'ai tout de suite comprise dans son discours musical, oui, de par ce que Anne disait, mon contact avec les symphonies de Shostakovich. Par contre, c'est une sonate de bravoure au niveau technique, que ce soit pour le piano que pour la flûte. C'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Mais c'était chouette aussi de parcourir cette aventure d'une nouvelle sonate extrêmement difficile techniquement, ensemble. Il y a eu des hauts, des bas, et maintenant on la maîtrise le mieux qu'on peut. Et on l'a découverte vraiment ensemble. C'était au niveau technique et au niveau musical.
Ces œuvres qui sont pour nous de très grandes découvertes, vous avez eu l'occasion de les écouter par d'autres interprètes, il y a des disques, il y a des choses. Pour moi, c'est des œuvres inédites. Alors, non, vous n'avez pas pu...
Pas tant que ça. Prokofiev, évidemment, voilà, oui. Ça fait, c'est normal. Le Denisov, j'avoue que j'ai pas tellement eu envie. J'avais envie de... Une fois que j'ai compris que cette sonate était pour nous, j'ai pas ressenti le besoin. Hein. J'avais envie d'aller au fond des choses ensemble, à deux, en tant que duo. Quant aux deux autres, évidemment, oui, la sonate de Juon, il n'y a pas d'enregistrement. La sonate de Kornakov, il y a un excellent flûtiste russe qui a fait une vidéo sur YouTube que j'avais écoutée avec beaucoup d'intérêt. Je me souviens plus de son nom, j'en suis désolée. Avec un très bon pianiste. Et j'avais échangé avec ce flûtiste, et c'est comme ça que j'avais découvert cette sonate. C'était extrêmement bien joué.
En tout cas, c'est un très grand bonheur que ce disque, c'est vraiment de très grandes découvertes. Et je ne vous dirai pas ce que je pense de l'interprétation, mais bien que si vous rougissiez, on s'en fiche, on est à la radio. En tout cas, je rappelle donc ce disque de sonate russe, Prokofiev, Juon Kornakov et Denisov. Sandrine Tilly, il me reste à vous remercier d'avoir été mon invitée.
Merci à vous.
Et Anne Lebozek, il me reste également à vous remercier d'avoir été
mon invitée. Merci de votre invitation, Frédéric. Merci.